J'écoute. Vous écoutez à moi en écoutant. Bla 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 bla. Nous nous portons vers l'audible. Chi. Aïe. Peu à peu, il se découpe, deviendra clair, compréhensible, sémantique, musical, signifiant. Mais nous ne remarquons pas l'inaudible. Ce n'est pas car il ne sonne pas, mais car nous ne savons pas comment entendre. Ils échappent nos oreilles. Ouh ! Mes oreilles sont des oreilles politiques, sociales et idéologiques. Elles sont en attendante, entraînées, ignorantes, paresseuses, confortables. J'entends ce que j'attends d'entendre, culturellement, visuellement, linguistiquement et bien musicalement. Ce dernier se concerne à l'intérieur, sur ses propres modes, ou bien il est et du bruit. Nous devrons syntoniser notre corps pour écouter comme performance générative, pour entendre pas seulement des faits physiologiques ou esthétiques, mais d'instiguer un détournement sonico-social vers une sensibilité sonore qui voit les frontières politiques et disciplinaires et qui s'engage aux gens privés, à l'invisible, à l'exclu, et qui sent une réciprocité sensorimoteur, rétroaction performant la réalité des relations invisibles. Écouter est politique. Écouter à l'audible produit d'empathie, réciprocité et communication. Écouter à l'inaudible construit des dynamiques invisibles de cette communication et de ceux qui l'excluent des communautés. Écouter à l'audible et à l'inaudible, nous habitons, bougeons et interagissons dans la vie quotidienne et nous comprenons pas seulement le son, mais nous-mêmes habitons en sang, remuant contre, envers et avec nous-mêmes. Il nous faut nous entraîner physiquement pour aborder l'audible et entendre l'inaudible. Tui, 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 tui. Oh, oh, oh. Dans le bruit qui emporte chaque jour le contemporain au service des urgences, j'essaie de penser ce qui ne fait aucun bruit et qui apparemment n'a aucune urgence, mais qui manque au point que son silence même s'entend sous le discours de luxe. J'essaie de penser une pensée du sujet comme politique du sujet. Je pose que s'il manque le poème, le sujet du poème, il manque du sujet au sujet. Ce sujet spécifique doit être pensé, car cette pensée est nécessaire, même sans qu'on la sache, pour tout. Elle est la démocratie du poème. Elle est ce qu'il y a à penser tant à part l'idée d'une pensée poétique telle qu'elle transformerait non seulement la représentation courante du langage, mais retrouverait autrement et pour aujourd'hui un lien oublié entre le langage, la chose littéraire, l'éthique et le politique. Le lien entre le rythme et le sujet vient de ce que j'entends par pensée poétique, une invention du rythme au sens où le rythme n'est plus une alternance formelle mais une organisation du sujet. Et la poésie ou la pensée poétique, je la définis comme une invention du sujet telle qu'elle invente indéfiniment d'autres sujets.
something other. I had not planned in not planning to meet anything other than myself. There are stories in a section of Xanto Permali. Knowing is at present a feeling that equivalence often tells of being surrounded, a mountain range for those with eyes small. How it reacts develops its physiognomy, it is its life. How I react, chance occurs on occasion. Betula pendula, epiphic leaves of yellow, my eyes move to a soil of teeth. Kikonia, kikonia, peering at eyes as elements of fear and power. Look, it lowers itself into its nest as if a magician, as if it were never there, swallowed by branches. I hear nothing, though I imagine everything. Cut into the landscape, nothing noiseless tearing my head in two. I see an ear lying in stone. It lies before me in its own world, loving that which separates us. It lies burning in the sun. Differentiate between ear and stone. Imperfections, part of stone, part of me, part of field, unwilling abundance of self-portraits dragged behind existence. Willing to begin as unchoice, headstrong in a milieu of dependence of palpable unknowns, felt as trace pictures. Latching onto what we carry, tacit extensions of ourselves, we leave fragments in corners.
The Rhythm Analyst, a provisionary portrait. The Rhythm Analyst will have some points in common with the Psychoanalyst. Though he differentiates himself from the latter, the differences go further than the analogies. He will be attentive, but not only to the words or pieces of information, the confessions and confidences of a partner or client. He will listen to the world, and above all to what are disdainfully called noises, which are said without meaning and to murmurs, rumeurs, full of meaning. And finally, he will listen to silences. The psychoanalyst encounters difficulties when he listens out. How is he to orientate his knowledge, forget his past, make himself anew and passive, and not interpret prematurely? The rhythm analyst will not have these methodological obligations, rendering oneself passive, forgetting one's knowledge in order to represent in its entirety in the interpretation. He listens, and first, to his body. He learns rhythm from it in order to consequently to appreciate external rhythms. His body serves him as a metronome, a difficult task and situation, to perceive distinct rhythms distinctly without disrupting them, without dislocating time. This preparatory discipline for the perception of the outside world borders on pathology, yet avoids it because it is methodical. All sorts of already known practices, more or less mixed up with ideology, are similar to it and can be of use. The control of breathing in the heart, the use of muscles and limbs, etc. The body, our body, so neglected in philosophy that it ends up speaking its mind and kicking up a fuss. The surroundings of bodies, be they in nature or a social setting, are bundles, bouquets, garlands of rhythms to which it is necessary to listen in order to grasp the natural and produced ensembles. The rhythm analyst will not be obliged to jump from the inside to the outside of observed bodies. He should come to listen to them as a whole and unify them by taking his own rhythms as a reference, by integrating the outside with the inside and vice versa. For him, nothing is immobile. He hears the wind, the rain, storms. But if he considers a stone, a wall, a trunk, he understands their slowness, the interminable rhythm. This object is not inert. Time is not set aside for the subject. It is only slow in relation to our time, to our body, the measure of rhythms. An apparently immobile object, the forest, moves in multiple ways. The combined movements of the soil, the earth, the sun, or the movements of the molecules and atoms that compose it, the object of the forest, resists a thousand aggressions but breaks up in humidity or in conditions of vitality, the profusion of minuscule life. To the attentive ear, it makes a noise like a seashell. The most quiet. A girl is late for the French class. A girl is late. And a young man leads his new wife under the temple, into the dust under the temple. A girl is late and boys kick a football in the dust, under the temple in the most quiet. A girl is late and a young man leads his new wife into the French class, into the most quiet French class. And boys kick a football in the dust. And cats curl around their ankles under the temple. In the most quiet, in the French class, a girl is late, a girl is most quiet, and the cat's tails are scythe and the boys are dust. A girl is late for the French class, and the teacher hides, and the young man kicks the dust under the temple. A young man leads his new wife into the French class, and the teacher kicks the dust. A young man leads his new wife under the temple, and the boys are most quiet. And the cats have gifts, and the girl bleeds softly into the dust. A girl bleeds. A girl is most quiet. A girl is late for French class. A young man leads his new wife into the dust.
I was sitting in the cafe in the station, having a coffee. I was on the terrace, perched on a high stool, right near a window that looked into the bar. I could see the bar through the glass, but also the terrace and her reflection. They put a bottle rack and stuff behind the window on the bar side, so it acted as a kind of screen. But I could also see the bar and the people in the bar area getting drinks. And I could see the people on the terrace in the reflection of the window. People were walking around, moving chairs, sitting, eating, chatting and drinking. A strange thing happened. There was a thin lady in a stripy bret on top. I caught a glimpse of her gold watch, glistening in the light. I thought she was behind me. I felt a presence and was pretty sure she was there on the terrace. I thought I could see her in a reflection. I thought she was moving a chair or something. But when I turned around, she wasn't there. And this really shocked me. I looked back through the window into the bar area to the opposite point, but I couldn't see her there either. Then I saw a glimpse of her leaving the interior of the bar, slipping out of sight, just to my left. It was a strange thing to feel a presence, to see, to think I saw something. Like to think I knew what I saw, then to feel this absence almost immediately.
Parmi nos articles de cancellière paresseuse, nous recommandons le robinet qui s'arrête de couler quand on ne l'écoute pas. Duchamp's verbal pun rotating on a black and white spiral hints at the authority of one's own listening. It confirms listening as invention, as an interpretative fantasy that draws inwards to pull outwards, moves slowly and seems fast, and whose vigorous non-hearing is as much part of the heard as is the heard. Both are invented rather than relate to an actual source of its sounding. Silence is at the base of such inventions. It enables and nourishes it and gives it a hold in the world, which as a life world is produced through the agency of listening that it echoes. Silence is at once covering surface and reflective mirror, takes and gives, and entrusts my subjectivity with this same responsibility of taking and giving as the basic condition of communicative subjectivity. The sonic subject is not assumed as a naive, non-ideological, natural being, nor is he solipsistic, mystic, or mad. He finds the tendency to be social in the grasps of silence and brings with him the awareness of himself within this grasp and the understanding of his responsibility in any exchange. Such a sonic exchange and ultimately sound arts discourse bring out the stunned astonishment of noise in the fragile condition of silence. From centrifugal fragmentation, the sonic subject finds a centripetal weight in the thick materiality of his own sounds. It is the bareness of myself in silence, the sense of hearing myself amidst sounds, perspectiveless, in complex simultaneity, which engenders doubts and suspends habits, while offering me the condition to speak. This speech accepts probable failure of communication as a good position to begin language with, as it avoids assumptions and preemptive understandings in favour of sense, of a sense constructed on the spot, again and again, however unlikely the meeting of meaning might be. Consequently, I know that I will not necessarily understand my fellow men, nor be understood. That does not mean I will not try. It just means that I work from the acceptance of misunderstandings into the occasional understanding, the moments of coincidence that is humanity in its dynamic production rather than as historical ideology and artifact. There is meaning, but not necessarily a shared sense of perception thereof. invisible. Quand je dis que tout visible comporte un fond qui n'est pas visible au son de la figure, 2, même en ce qu'il est à de figural ou de figuratif, n'est pas un poil objectif en soi survolé, mais glisse sous le regard ou est balayé par le regard, naît en silence sous le regard. Quand il naît de face, c'est à partir de l'horizon. Quand il entre en scène latéralement, c'est sans bruit. Donc, si l'on entend par visible le poil objectif, n'est en ce sens pas visible, mais unverborgen, pas caché. Quand je dis donc que tout visible est invisible, que la perception est imperception, que la conscience est en punctum, que voir c'est toujours voir plus qu'on ne voit, il ne faut pas le comprendre dans le sens d'une contradiction. Il ne faut pas se figurer que j'ajoute au visible parfaitement défini comme en soi un non-visible, qui ne sert à pas absence d'objectif, c'est-à-dire présence objective ailleurs dans un ailleurs en soi. Il faut comprendre que c'est la visibilité même qui comporte une non-visibilité. Dans la mesure même où je vois, je ne sais pas ce que je vois. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, qu'il n'est là rien, mais que le Wesen dont il s'agit est celui d'un rayon de monde tacitement touché. Le monde perçu, comme la peinture, est l'ensemble des chemins de mon corps et non une multitude d'individus spatio-temporels. L'invisible du visible, c'est son appartenance à un rayon de monde.
Il n'avait jamais été un lieu plus agréable. Les myrtes et les orangers joignaient leurs branches ensemble pour former de longues allées couvertes. Et des cabinets où le soleil ne pouvait pénétrer. 1000 ruisseaux de fontaines qui coulaient doucement contribuaient à rafraîchir son bon séjour. Mais ce qui était le plus rare, c'est que tous les animaux y parlaient. Thank you.
listening to the inaudible, the sound of unicorns. Walking along the Seven Sisters Road, I ask my son walking next to me what he hears. His answer, nothing. He had zeroed the acoustic environment to the steady stream of sounds constantly moving at our side, creating in concert a solid wall rushing onwards, up and down its concrete path and determining ours. Its dense drone differentiated only where a particular hum perforates the concentrated wall, is punctuated infrequently by its own sudden, deafening absence, followed by an even greater surge of sound all revving up individually, soon to fall back into a compound stream again. This last chapter concludes without concluding, not to find an ending to the idea of sonic possible worlds, but to lead its possibility beyond the heard into the inaudible, that which also sound, but which for physiological, social, and political or ideological reason and decisions of taste and preference we cannot hear. The inaudible is what expands the invisible, what questions its boundaries and confirms the inexhaustible nature of sound. It is the critical edge of sound art and musicality, both of which share the absent, the unsound, and the as yet unheard, the imagined and the ignored, and work from their present possibility into the unheard manifestation of its sonic materiality. The inaudible is a radical articulation, but not a conclusion of a phenomenological possibilism. It is not only where doubt and astonishment suspend habits and taste and consider anew what is assumed as known, but where we accept the presence of the unknowable. It is where perception must plunge not only into the possibility of the world, but also into its impossibility, into what might not exist, what is not yet known to exist, and what goes as yet unnoticed, or what might simply be imagined, but which all nevertheless might turn out to be possible.
Is not literally the sound of the unicorn, but the sound of the unicorn is what engenders its imagination. There in the woods, not sonic fossils, but other present sounds which we do not hear, and yet they impact on how we see the trees. Francis Domon's Forêt Profonde brings from the darkness of the woods other shades and formless forms to our imagination that start to populate and produce its place beyond the visual description in an invisible experience
where much remains inaudible and yet moves the undergrowth and seeks passing names to act as portals into the reality of its sonic possible impossible world. It appears to be a matter of having the right tools, technologically, artistically, or in terms of sensitivity, to access these sonic possible impossible worlds that unfold in the brushwood. Aisuka Yanagisawa's recording of ultrasonic landscapes are not beautiful or particularly harmonious. They clip and grate and flange and crackle, whiz and hum, sounding more like scrambled signals than a soundscape. And yet they intrigue through what they hint at and make us hear between what actually sounds and our auditory imagination. The ultrasonic recorder modifies frequencies beyond our hearing range into audible material, translating between an audible and an inaudible world, and granting access from one to the other, adding the unheard to what is audible and making the two compossible. These recordings present the inaudible as a variant of the same world and thus expand the threshold of its actuality and the possibility into the invisible depth of the unheard. Of course, we know that bats exist and that they are there use ultrasound to find their way in the dark, but the rational understanding of this zoological fact does not thicken and mobilize the woods at night. The ultrasonic recorder grants entry into this other world and invites us to add it to the slices we know about and consider actual or possible. It gives them a deeper depth and a darker groundlessness, and so when I next step into the semi-darkness of the early evening light, between trees and ferns, I will sense the agitation and mobility that composes my view.
Seven, charge.
The inaudible is the verge of the soundscape. It is the portal into a plurality of worlds that are all variants of this world, but which we can neither see nor hear because we do not know how to, or we do not want to. And it is the criticality of the artwork. It is its radical edge over what we know, inviting us to sense beyond what is and what might be, the possibility of impossibility. The invisible, inaudible slices of the work whose presence we might sense, but whose materiality we cannot grasp. The possible impossibility of the work is what gives it the strength to continually push at the boundaries of aesthetic knowledge, to move us into that which we deliberately or inadvertently exclude from our sense of the work without becoming itself audible. It is an aesthetic force rather than a sound, whose sound once revealed heights and enables others still. The possible impossibility of the world is its political, ideological and social horizon, beyond which we pretend not to see anything even once we start to hear it rumble. It is the ground beneath which are hidden those things that do not sound, but which remain unheard, and those that once did sound but have become silent, but often not yet mute. It is the artist's job to open the possibility of the impossible, and it is the writer's responsibility and the listener's challenge to engage in the inaudible, to tease it out, not to come to an ideal audibility, but to constantly work on the boundary between the audible and the inaudible, to make the impossible resound the possible and pluralize the actual. The stars. When night comes, I stand on the stairway and listen. The stars are swarming in the garden, and I'm standing in the dark. Listen. A star fell with a tinkle. Do not go out on the grass with bare feet. My garden is full of splinters. Sitting down for 6 minutes. Et je vous ai lu une partiture textuelle. Alors j'ai lu Henri Mechanique, une politique du rythme. Et j'ai joué Patrick Farmer, Still This Is Not, from Falling Out Trees. J'ai commencé à lire un texte de Patrick Farmer, Try I Bark. Après ça, je vous ai lu Henri Lefebvre, Rhythm Analyse. Un poème de Sarah Jackson, The Most Quiet. Alors j'ai lu The Listening to Noise and Silence. Et je vous ai joué une pièce de Signalite, Pendulum. Alors j'ai lu de Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l'Invisible, The Note de Travail. J'ai joué Claire Garçon, Audio Excerpt from 7 Minutes. J'ai lu The Sonic Possible Worlds et j'ai joué Aisuke Yanagisawa, Ultrasonic Scapes from Ultrasonic Landscapes. Encore un petit en plus, The Sonic Possible Worlds et alors Mikhail Karikis, Sounds from Beneath. Encore un petit peu de Sonic Possible Worlds et un poème de Iris Edegaard, Stars. Et voilà, ça c'est 4 mètres conduits. Bonsoir, je m'appelle Salomé et j'ai essayé de faire une performance d'inaudible pour vous faire écouter, même si quelques textes sont en anglais. Je crois que ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout à fait compris. Moi je suis sûre que je comprends très très peu de tout. Et comme j'ai dit, dans le texte, la communication c'est quelque chose d'hasard, des moments de coïncidence. des moments coïncidentels où on se comprend, où on dit quelque chose qu'on peut partager, qu'on peut communiquer. Mais je crois que très souvent, on ne se comprend pas. Mais c'est OK. On fait quelque chose, on écoute, on entend, on travaille avec des matériels. Et c'est pour cela que j'emportais des livres et des disques pour écouter, pour lire, et pour compenser quelques questions, quelques idées à propos de l'inaudible. C'est quoi ça, l'inaudible? Qu'est-ce que je veux dire à propos de ça? Mais je veux m'excuser un petit peu. J'habite depuis 20 ans à Londres, alors mon français est vraiment appauvri. Mais j'espère que ça va aller dans notre discussion maintenant. Et si vous ne me comprenez pas ou si je ne sais plus de quoi je parle, j'espère bien que vous pouvez m'interrompre et me dire arrête. Et peut-être, vous savez, vous pouvez discuter aussi. Pour moi, c'est moi à parler. Mais pourquoi d'abord une performation? Je crois que moi, j'appelle ça une curatorial performance. Mes buts avec une curatorial performance, c'est que la théorie, les pensées, l'écriture est en égal avec les œuvres. C'est tout égal. C'est pas comme une exhibition, il y a les œuvres, ou un disque, il y a les œuvres, et après ça, une critique vient et va écrire quelque chose à propos de l'œuvre. Je crois que ça a une hiérarchie, et ça parle toujours de communication, the right way, le vrai, qui a une interprétation qu'il faut. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas une interprétation qui est right, mais il faut interpréter, il faut jouer avec les matériaux, il faut faire des choses. Et je sais bien que vous êtes des artistes post-diplôme, donc l'idée, ce n'est pas d'être des théoristes, l'idée, ce n'est pas de faire des critiques, mais de faire des choses avec le matériel, les matériaux sonores, les matériaux textuels, etc. J'ai écrit une introduction, je crois que vous l'avez, je ne suis pas sûre. Alors pour moi, l'idée, c'est qu'on va chercher, c'est qu'on ne l'écoute pas, mais qu'il sente quand même. Comme je suis sûre qu'il y a des sons qui sonnent, mais nous n'écoutons, nous n'entendons pas, pour des raisons, comme je disais, idéologiques, ou esthétiques. On n'a pas la technologie, comme Aizuka Yanagasawa, il enregistre des bats, des chauves-souris, donc il y a des ultrasoniques technologies, et on ne peut pas entendre justement dans les forêts. Il nous faut cette technologie. C'est comme une métaphore de ce que je parle. Et c'est technologique, mais aussi il y a des raisons idéologiques, physiognomiques, mais aussi politiques et sociales. Il y a des choses qui sont exclues, qu'on ne veut pas entendre, qu'on n'a pas le temps, on ne veut pas s'en occuper, alors on n'écoute pas. Et moi, je crois, c'est une provocation à moi, que c'est le rôle d'artiste, c'est le job, le devoir de l'artiste, de faire écouter ce qu'on n'entend pas. De faire des choses avec le matériel sonore qu'on n'écoute pas normalement, normativement, disons-nous, en esthétique ou bien aussi politique et idéologique. J'espère bien qu'on va parler un peu de cela en nous-mêmes. Alors, quel est le lieu d'écoute de l'inaudible? Est-il une réalité ou seulement une possibilité? Peut-être une possibilité impossible ou même une impossibilité possible. Alors, l'idée que quelque chose peut être impossible, mais on peut penser des impossibilités. On peut faire un concept des impossibilités. Donc, comme artiste, on peut faire une possibilité ou des possibilités. On peut pluraliser l'idée du réel. En suivant des idées phonologiques logiques, c'est pour moi, quand j'ai écrit Sonic Possible Words, je m'occupais de logique, de Possible World Theory, de logique et de phonologie faire une combinaison de ces deux philosophies pour trouver un lieu, un environnement qui est habitant, qui est phénoménologique, mais où c'est la possibilité et l'impossibilité, pas seulement le réel, ou qui peut être utilisé pour demander de réel ses horizons, ses frontières, ses normes. En suivant des idées, en écoutant les œuvres artistiques, musicales et des sons du quotidien, nous allons débattre les lieux de la formation et du pouvoir de l'inaudible. Et c'est ce que j'aimerais bien faire avec vous. Vous aussi pouvez emporter des livres, lire. Peut-être on peut avoir une discussion ce que ça veut dire lieu de l'inaudible, ce que veut dire l'inaudible. Si le monde visuel nous présente l'actualité, la représentation d'une réalité actuelle est convaincue, et si le son nous présente la possibilité de ce monde actuel, son processus invisible, qui n'est pas en opposition au visible, mais fait partie de sa réalité par sa mobilité éphémère, et qui nous rend conscients de la construction du monde visible, l'inaudible est l'invisible du son. Et nous avons... j'ai lu un petit peu de Maurice Merleau-Ponty qui dit que l'invisible est partie du visible. Ce n'est pas quelque chose de dialectique, quelque chose d'opposition du visible, mais il fait partie du visible, c'est l'invisible. Donc, je crois bien que l'inaudible fait partie d'audible. Et c'est pour cela que c'est très intéressant de penser en rencontre d'audible et l'inaudible. L'inaudible est l'invisible du son qui, pour des idées du goût esthétique, des raisons idéologiques et par notre paresse, nous ne pouvons pas entendre, mais qui sont quand même. Cet inaudible n'est donc pas seulement esthétique, mais aussi politique et idéologique. De ce fait, il est important que nous prenions conscience de son lieu et de ses possibilités et de ses impossibilités pour apprendre à écouter non seulement ce qui est apparent et connu, mais aussi ce qui est absent, non par son silence, mais par avoir été rendu silencieux dans la langue comme matérialité et comme concept esthétique et aussi comme possibilité sociale et économique. C'est la responsabilité de l'artiste de créer un accès à l'inaudible. Et c'est l'obligation d'écrivain, du critique, de trouver un lieu dans le langage pour le discuter et le rendre possible, même seulement comme impossibilité. Alors ça c'est ce que j'aimerais bien discuter. Alors j'ai quelques questions à vous poser, et donc on peut commencer de ça. C'est quoi l'inaudible, de votre avis? C'est quoi la relation entre l'audible et le visible, et donc entre l'audible et l'invisible et l'inaudible, s'il y a des relations. Particulièrement en ce qui concerne les idées politiques et esthétiques. Vous pouvez bien penser à votre pratique même, ce que vous composez avec le son, si vous pensez à l'inaudible ou seulement à l'audible. Pourquoi quelque chose est audible pour vous, à vous? Nous pourrions discuter le rôle d'artiste en politique investigué par l'inaudible. La responsabilité envers l'inaudible, soit-il esthétique ou soit-il politique. On peut commencer à cela, mais aussi, voulez-vous bien, j'ai fait des petites idées pourquoi j'ai emporté ces livres-là. Peut-être que ça va vous donner un peu d'idées comment j'ai composé mon performance. J'étais désolée que je n'avais pas plus de livres en français, même Lefèvre, naturellement, écrit en français, mais ça coûte 300 livres en français maintenant, comme il est plus imprimé. Alors. Et aussi en anglais, c'est vraiment difficile de trouver des livres en français. C'est une des raisons. Maurice Merleau-Ponty, je l'ai trouvé, mais c'est quand même difficile. Et naturellement, moi-même, j'écris en anglais. Alors, c'est plus facile pour moi de vous lire en anglais, mais je peux bien introduire ou discuter un petit peu. Mais Méchonique, lui ici, je crois qu'il nous fait penser du rythme comme quelque chose qui est à ce moment-là inaudible, qui manque au point que son silence même s'entend sous le discours. Et ce qui manque doit être pensé, fait accessible, pensable, thinkable, et par ce mouvement-là, l'impossible devient possible. Je crois que c'est mon interprétation de Méchonique. Et ce qui m'intéresse beaucoup de lui, c'est qu'il, pour lui, c'est le poétique et le langage. Et il dit que c'est important de leur penser en rythme pour que l'un peut dire de l'autre qu'ils ne peuvent pas d'eux, qu'ils ne sachent pas dire d'eux-mêmes. Et c'est aussi, moi j'aime très bien cette juxtaposition qui fait apparaître quelque chose d'autre. de tous les pôles. Le pôle de poétique, langage, alors il peut dire quelque chose d'autre de soi-même quand on le bring together. Et c'est pour moi, c'est le son et le visuel, ou bien le son et le langage aussi. Il peut dire quelque chose du vis-à-vis qu'ils ne peuvent pas dire d'eux-mêmes. Et Lefebvre, rythme analyse, lui, il a pris beaucoup de méchoniques. Pour lui, c'est le corps, le sujet, écouter à soi-même pour entendre l'autre comme objet, sujet dialectique, mais pour entendre l'inaudible d'une pierre. Alors pour lui, ce que j'aimerais très bien, que le pierre n'est pas immobile, les pierres ne sont pas immobiles, le forêt n'est pas immobile, c'est pas seulement le sujet dans une très anthropocentrique vue du monde, que c'est le sujet qui a un rythme et nous sommes importants, mais les pierres ou les forêts n'ont pas de pluie, c'est pas important, mais que le ton n'est pas seulement notre ton, mais le ton de chaque chose à soi-même. Alors c'est très intéressant, l'immobilité, pas comme inerte, pas comme être inerte, mais être mobile dans son ton. Patrick Farmer, lui, il est un compositeur, improviseur anglais. Et c'était un texte, un Try I Bark, sur son disque. Ils sont pas, c'est deux pièces différentes. Mais pour moi, il y avait, ça sont des textes sans direction. Il ne part ni point. Il contemple des choses. Il fait un espace pour repenser des mots que je connais. C'est une écriture comme une ouverture au impossible d'impossible. Pour moi, c'est une ouverture à quelque chose. C'est poétique du rythme, que moi, je crois que ça rencontre le poétique du rythme de Méchonik. Aussi Sarah Jackson, le poème The Most Quiet, c'est une répétition des rythmes, des répétitions qui font des nouvelles associations, des nouvelles idées à propos de quelque chose. Maurice Merleau-Ponty, le visible et l'invisible, note de travail. Alors, ça sont seulement les notes, comme l'invisible était écrit après il était mort déjà, et on avait seulement eu des notes. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant les questions de perception et l'accès que la perception crée. Qu'est-ce qu'il y a d'abord, le langage ou bien ce qu'on voit, ce qu'on sent. Même, il ne parle pas vraiment du son, mais il mourut quand il avait il n'était même pas 60. Moi, je suis absolument sûre, s'il avait vécu un peu plus longue, il aurait dû commencer à parler du son. Comme c'est vraiment dans son œuvre, ça commence à avoir du son, l'invisible, la nuit, et tout ça qui nous emporte envers le son. Je crois. C'est mon interprétation. Mais donc, pour lui, il n'a rien, seulement quand on écoute, seulement ce que nous écoute pas. Alors, il n'a pas rien, c'est seulement que nous ne nous écoutons pas. Et pour lui, la phénologie, c'est une mode pour s'avancer, pour faire un accès à ce qu'on n'écoute pas, ou ce qu'on ne voit pas, en ce temps-là. Et moi, j'emportais Listening to Noise and Silence et Sound Impossible World, les deux livres que j'écris, qui s'occupent beaucoup avec la relation de langage à écouter, à faire du son. Et Sound Impossible World, pour moi, c'était vraiment du faire un accès au possible, au son. Si le visible, c'est l'actualité, le son, c'est pour moi, c'est la possibilité. Et donc, il y a même l'impossibilité, c'est l'inaudible. C'est ce qu'il sent, mais on n'entend pas encore. Et il y a quelque chose d'esthétique, artistique en ces relations, mais aussi quelque chose de politique, sociologique, qui est très, très important pour moi. On ne peut pas les séparer. Je suis vraiment avec mon cher Nicolas, on ne peut pas les séparer. Et donc, mes questions, je répète mes questions, après qu'on va commencer à avoir une discussion. C'est quoi l'inaudible pour vous? Peut-être vous avez une tout à fait différente interprétation d'idée de l'inaudible. Est-il important pour les artistes d'en penser, pour vous, comme artiste, c'est important ou pas? les relations audibles, visibles, visibles, invisibles, invisibles, inaudibles. J'aimerais bien discuter ça un petit peu. L'idée d'artiste en relation aux politiques, des responsabilités sociales. J'aimerais bien discuter ça aussi. Ou bien vous pouvez prendre des livres, commencer votre idée de l'inaudible. Peut-être qu'on commence ça. C'est quoi l'inaudible pour des artistes qui travaillent avec le son, l'audible. Vous y avez jamais pensé qu'il y ait aussi des autres sons?
Moi, je pense qu'il y a deux sens à l'inaudible. On en parlait avec Gaël, justement, je crois. Justement, un son fort peut être inaudible. Enfin, c'est aussi un terme qu'on peut utiliser.
Quelqu'un ?
Un son qui est désagréable.
Désagréable.
Oui.
Comme des bruits, voilà. Peut-être. Oui. Alors, tu ne veux pas l'écouter, alors tu le veux rendre inaudible.
C'est pas ça. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas forcément d'expérience. Enfin, tout son est intéressant et je me sens pas agressé en tous les cas, mais certaines personnes peuvent l'être avec un son aigu ou autre et ça bouche les oreilles et c'est inaudible. Enfin, c'est un peu l'expression qu'on peut utiliser. Ou cette pièce-là est inaudible parce qu'elle est trop forte. L'oreille, elle n'arrive pas en fait.
Alors je ne peux pas écouter.
C'est ça.
Ouais.
Et du coup, c'est le contraire. Et je pense que de toute façon, bon après, c'est des réflexions, il n'y a pas vraiment de réponse, mais le silence et le bruit, c'est lié en fait. Enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression. Et du coup, ce qui ne s'entend pas est. Enfin, oui, enfin. Entre le plus et le moins, enfin, il y a des relations comme ça, entre le rien et le plein,
oui.
C'est extrêmement lié en fait, c'est pareil.
Enfin, oui, alors c'est pas pour toi, c'est donc pas une opposition, mais c'est quelque chose qui continue en fait.
Ça peut paraître une opposition, mais au final c'est un tout. Et du silence au bruit, c'est lié en fait. Enfin, moi j'ai l'impression.
Comme le chaud et le froid, c'est les températures.
Oui, voilà. On part du silence pour aller au bruit, et du bruit pour aller au silence.
Et quand vous composez quelque chose, vous pensez aux idées, si quelqu'un veut l'écouter, si tu fais en audible quelque chose que peut-être était inaudible en avant, esthétiquement, technologiquement.
Tu veux dire de faire découvrir?
Oui, de faire découvrir
pour
les écouteurs.
De rendre audible.
Oui, c'est un but, ça, pour vous.
Ça pose des questions des limites.
Oui, des limites esthétiques, ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais je crois que dans cette habitude, il y a des forces idéologiques et culturelles, naturellement. Nous sommes toujours idéologiques, esthétiquement entraînés de quelque part. Alors c'est pour cela que je crois que pour moi, c'est comme une. Je voulais d'abord chanter, car c'est un entraînement physiquement qu'il faut exorciser, quoi, de quelque part, de cette pensée. C'est quoi, c'est l'entraînement, et qu'est-ce que je vais faire avec l'entraînement? Je vais utiliser, ou bien je vais composer contre l'entraînement. Je vais faire des choses qui plaisent, comme ils jouent avec, que les gens ont d'habitude, ou bien je vais faire des déshabitudes. Quelque chose qui est vraiment difficile. Donc, l'inaudible, je crois que pour moi, l'impossibilité et la possibilité, pour moi, sont des termes et des mots qui m'aident à penser des choses que je veux dire comme compositeur. C'est ça.
Est-ce qu'on peut arriver à penser les espaces du son ou le son sans nous. C'est-à-dire que c'est quand on parle de limite entre audible et inaudible, entre physiologiquement, culturellement, musicalement, il y a plein de.
Ouais.
En fin de compte, il faut envisager que l'espace sonore est illimité, que le champ sonore est illimité, et que c'est nous qui mettons des limites dans ce champ pour rendre audible, ou en tout cas ce qui nous semble audible pour nous.
Oui.
Donc ce qu'il faudrait faire, c'est lorsqu'on travaille sur un spectre sonore, par exemple, c'est de penser que ce spectre, il n'est pas entier, il fait partie de quelque chose de plus grand.
Oui, absolument. Et c'est pour cela que pour moi, c'est la raison d'être pour être artiste. Mmh. Pour expandir ses limites, toujours. On ne peut pas, c'est inexhaustible. Moi, j'aime ces mots en anglais comme inexhaustible. Je sais pas, c'est la même en français.
Non.
Inépuisable.
Comme c'est, il faut du force, mais on peut pas y aller. C'est pas possible de vraiment achever les limites. Et c'est pour cela que pour moi, l'inaudible est vraiment très important pour une pensée, pour une concept, la conceptualisation, pour faire des objets sonores, pour faire des compositions sonores, pour faire des improvisations, pour faire ce que vous faites comme artiste. Et peut-être ce sera plus facile si vous me dites un petit peu à propos de ce que vous faites avec le son. Si vous faites un circuit, peut-être que ça va aider.
Moi, je joue plutôt live avec de la synthèse, du synthétiseur.
Oui. Alors, la synthétiseur, c'est tout à propos de faire des sons qui sont pas encore, non?
Mm-hmm.
Oui. Alors,
d'inventer des sons, oui.
Oui.
A priori.
Oui. Alors, c'est très important. On fait du fait l'impossibilité, toujours. Quand tu synthèses, tu fais quelque chose qui est impossible, comme je ne peux pas enregistrer en nature.
Non,
tu achèves l'impossibilité d'inaudible. Oui. Mmh. Tu crois que ça puisse t'aider à penser critiquement que les mots possible, impossible, audible, c'est peut-être quelque chose que tu peux emporter en studio pour en penser ou pas vraiment?
Je n'ai pas trop posé la question, je crois.
Non.
Mais on est toujours face aux limites de ce qu'on va pouvoir percevoir, de ce que le matériel va pouvoir diffuser, projeter.
Comme la diffusion, pour moi, avec la synthèse, la diffusion, c'est de faire des sons les possible words. Comme c'est pas field recording, c'est pas phonographie, mais c'est de faire quelque chose possible qui n'était pas possible en avant. Et nous allons habitant là-dedans. Quand c'est difficile, pas. Et alors, ça vraiment, ça joue avec notre habitude, ce que nous sommes d'habitude d'entendre. Avec quoi tu fais quoi?
Pardon?
Tu fais quoi comme avec le son?
Tout un tas de choses. non, mais je me rends compte, justement pour ça, que. Enfin, je suis toujours entre ce vide et ce plein, où soit je vais faire une pièce qui part du silence et essayer de. Pour que l'auditeur, en tout cas, il puisse porter son écoute plus profond, pour essayer de d'écouter en profondeur, ou alors jouer sur le volume, ou justement, qu'il puisse ressentir physiquement le son. Et du coup, ouais, je me rends compte que c'est plus un travail sur l'audition, en fait, que je fais. Puisque je fais que du son, enfin, c'est ça.
Oui. Et tu fais ça pourquoi?
Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai un message à porter, je pense. C'est pas prétentieux, mais ouais, peut-être politique et artistique. Et voilà, pourquoi on dessine, pourquoi on peint et pourquoi on fait du son, bah c'est comme ça. Enfin, oui. C'est mon moyen d'expression en tout cas.
Oui, mais c'est le but, c'est de plaire quelqu'un, non, ou plutôt de faire.
Au contraire. complètement au contraire, oui.
Oui, oui. De nous faire inconfortable. Oui. Oui. Alors, pour nous être à nos limites aussi, quelque part.
Bah, pour essayer de tester ses limites, justement.
Oui.
Parce que moi, je m'en suis bien sorti jusqu'à présent. Je ne vois pas pourquoi les autres non. C'est ça, cette question que je me pose. Pourquoi moi, j'arrive à entendre tel son et pourquoi les autres ne peuvent pas l'entendre, quoi.
Oui.
C'est ça, c'est une grande question que je me pose. Oui. Pourquoi moi, je peux supporter tel son et pas les autres.
Mais tu crois physionomiquement ou plutôt esthétiquement? Il n'aime pas, il ne veut pas, je ne vais pas écouter ça.
C'est plus physique plutôt.
Oui.
C'est les deux.
Et quoi, qu'est-ce que tu fais avec le son?
Moi, je pense que je m'amuse à déconstruire les choses dans des fictions, peut-être plutôt. Déconstruire les choses qui sont définies comme ça.
Oui. Déconstruire des objets ou bien du son?
Bah, il y a des
deux.
Objets.
Des objets.
Jusqu'à la destruction des voix. Et il y a moi aussi, mais moi je ne me déconstruis pas. Mais voilà, pendant mes performances.
Oui. Alors, c'est une déconstruction des normes aussi, des idées, toujours des habits, des habitudes, des idées.
Bah, je sais pas. Par exemple, essayer de penser autrement, enfin, je sais pas, j'avais fait une performance où ça me faisait penser à ça, ce dont tu parlais tout à l'heure, où j'avais ralenti le temps, enfin, d'une façon de penser assez animiste, et il y avait des plantes qui se mettaient à parler en fait, et le temps avait tellement été accéléré qu'en fait les plantes c'était fini, elles avaient juste eu le temps de parler 2 secondes.
Oui.
Par rapport au temps de vie d'une plante. Dans une certaine logique, c'est logique. Mais
alors, tu aussi, tu fais l'impossibilité, quelque part.
Oui, il y a un peu ça.
Oui, oui.
Ouais.
Peut-être que ce n'est pas possible de faire seulement l'impossibilité qu'on travaille avec le son. Mais quelquefois, je crois qu'avoir les mots, avoir des concepts, des idées, des pensées, ça aide à avancer ce qu'on fait et à contextualiser, à comprendre ce que se passe avec ton propre... avec des travaux. Quelquefois, on fait quelque chose et j'ai aucune idée de ce qui se passe. Alors, il me faut quelques mots pour en repenser des nouvelles idées. Oui. Et tu fais quoi?
Moi, le son, c'est un des éléments avec lesquels je travaille. Puis souvent, c'est des. Je pars de fils récordiles, du son que j'ai prélevé dans des voyages. Puis après, je les travaille sur mon ordinateur, dans des installations. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est en train un peu de changer, d'évoluer avec ce post-dico. Et voilà, j'ai une réflexion sur le paysage et sur le rapport de l'homme et de son environnement.
Oui. Et c'est quoi
global,
ton rapport à la réalité? Tu t'intéresses à faire une phonographie réelle ou bien de manipuler, de changer?
Non, je manipule la plupart du temps le son. J'ai pas du tout une approche de reportage ou de documentaire sur c'est pas, enfin j'ai pas une pratique comme ça, quoi. J'ai une pratique un peu plus musicale du son que je vais prélever.
Alors c'est seulement le matériel pour commencer une composition.
Ouais.
Moi, je travaille entre autres avec le son, et mes questionnements en général se tournent vers des situations dans lesquelles on peut trouver un nœud un vertige en fait, quelque chose qui pourrait échapper à l'entendement. À la compréhension, et du coup peut-être par rapport à l'inaudible, ce serait plutôt Enfin, comment dire, plus généralement, ce serait le travailler sur le, l'indéfinissable.
Oui, donc jouer avec l'éphémère, l'éphéméralité du son, en concept et en matériaux.
Non, c'est pas une question d'éphémère, c'est vraiment une question de... Enfin, moi, je parle de situations réelles, dans lesquelles, enfin, après, j'ai une approche qui est aussi analytique, quoi, enfin, disons, sociologique, un peu. Et j'essaye d'en faire, par la photographie ou la vidéo ou le son, d'en faire sortir, justement, l'absurdité ou ce que j'appelle moi le nœud ou la zone grise.
Les choses qui échappent à la raison.
Bon, ouais. Ou qui. Voilà, ouais, c'est peut-être dit comme ça.
Non. Toi, tu es post-diplôme aussi.
Oui.
Je
suis un peu loin,
mais. C'est pareil. Et tu fais quoi?
Ben, du coup, je pense que je flirte un peu avec ces histoires-là de perception. Déjà, j'ai plutôt un travail autour de, du langage et de tout ce que ça peut convoquer. Enfin, bon, du coup, je me retrouve assez dans ces rapports-là, quoi, à l'inaudible, ou en tout cas, enfin, dans tout ce que ça peut convoquer aussi dans des rapports de... Tu évoquais le visible et l'écoute, enfin, tous ces rapports-là. Mais j'aurais plutôt, en fait, en t'entendant... voilà, j'avais plutôt envie de lire des choses qui, moi, nourrissent, qui sont assez proches de tout ça, mais bon, j'en ai un peu des paquets, mais des petites phrases, enfin, voilà, qui, pour moi, rejoignent tout ça et rejoignent aussi... Mais, voilà, ce qui me préoccupe, quoi, je crois.
Tu veux dire quelques-uns?
Oui, je peux dire des petites choses, mais c'est...
Peut-être qu'on peut commencer une discussion.
Pardon?
Peut-être on peut commencer un débat, si tu
veux. Oui. Par exemple de Merleau-Ponty, tu parlais de chant que tu as commencé à lire aussi en chantant pour entrer dans la langue aussi avec les corps. Moi j'aime assez ce qu'il dit, la signification linguistique est incarnée dans l'expérience sentie induite par des sons particuliers et des formes sonores particulières qui font écho et contraste les uns avec les autres, et de chaque langue une sorte de chant, une manière propre de chanter le monde. Mais c'est très... en fait, je suis en train de justement essayer de travailler un texte qui reprend, enfin, un peu ce que, voilà, ce que tu fabriques dans une performance. Donc là, j'ai un projet autour du langage sifflé à l'île, sur l'île de la Gomera, que j'essaie d'articuler avec, voilà, avec toutes ces histoires-là. C'est pas des choses très, très faciles à oraliser, justement, en fait, ces questions-là.
Oui, oui. Ça, je crois que c'est très difficile.
Ouais,
c'est comme c'est flou, c'est l'impossibilité. On parle de l'impossibilité. Alors c'est peut-être que c'est pas possible, mais moi je crois que c'est ça vaut la peine d'essayer. C'est pour cela que je dis ça vaut la peine d'essayer toujours to reach l'impossibilité, comme c'est dans l'impossible que des nouvelles idées viennent pour travailler pour l'art, pour esthétique, mais aussi politique. Et c'est pour ça que c'est, pour moi, c'est les limites les plus exciting au moment maintenant, pour mon propre œuvre, mais aussi pour en discuter, pour en débattre ce que ça veut dire politiquement, comme les temps maintenant ne sont pas tout à fait faciles, en France et en anglais, et partout en monde. Alors il y a des limites. Des limites comment on pense au monde, à la société, à toutes choses, et c'est pour ça que je trouve que c'est très très important pour moi. Alors, je vous ai joué Isuke Yamakusawa qui fait les enregistrements des chauves-souris. Alors, c'est vraiment technologiquement, il les intéresse. Il y a des lumières, il y a toutes choses qu'il a enregistrées par son back recorder, son ultrasonic enregistrement. Mais juste aussi quelqu'un d'autre, Mika Karikis, j'ai joué un petit peu de celui-là, Sands from Beneath. Je crois que lui, il le fait vraiment apparent que c'est politique. Comme Sands from Beneath, c'était des enregistrements des, je ne sais pas en anglais, et en français des miners, qui étaient en Angleterre avant les 1980. Il y avait beaucoup de miners, et alors il avait Thatcher, il avait les conservatives. Elle a fermé toute cette industrie. Alors il avait des générations des hommes en Wales et aussi en Kent qui n'avaient plus d'emploi, qui n'avaient plus rien, plus d'identité, rien du tout. C'était fini pour eux. Et tous les travaux de Mika Karikis qui sont très politiques, mais toujours avec le son et aussi avec les vidéos et la photographie. Vraiment très intéressant. Chez les vidéos, peut-être on pourrait voir les vidéos.
En fait, bon, ce qu'on a entendu, ce sont les mineurs.
C'est un chœur des mineurs.
Ouais, c'est un chœur des mineurs,
oui,
qui reproduisent les sons.
Oui.
Ils entendaient dans la mine en travaillant.
Ouais, ouais. Et maintenant qu'ils n'ont plus de travail, alors Michael les a rentrés dans les clubs,
ouais.
Et a fait un choir, un chœur, fait cette pièce avec eux. J'ai une vidéo, si on peut regarder.
Il faudrait
Alors c'était un son qui ne sent plus, mais il y a le résidu. Et il y a toujours le concept et le pensée politique. Il avait aussi fait une autre pièce, Sea Women, qu'il a fait en sud du Corée, entre Japon et Corée. Et ce sont les femmes qui sont des Sea Women. C'est un mot qui n'existe pas en anglais, Sea Women. Les femmes pêcheurs.
C'est des plongeuses. Plongeuses.
Oui, plongeuses. Et ils font une bruit particulière quand ils plongent. Très étrange quand ils respirent. Mais aussi c'est très important pour eux, pour entendre et même pour la sécurité du groupe. Mais ce travail-là. Est en train de se finir. Le plus jeune est maintenant 60 ou 70 ans, alors c'est plutôt fini. Alors c'est un son qui va nous échapper vraiment pour toujours. Un siffle, en fait, qui ne va être plus être. Alors il y a tous les deux moments, un son qui n'existe plus et un son qui va plus exister. Et les vidéos sont vraiment très forts pour nous penser à l'inaudible. Qu'est-ce que ça veut dire si quelque chose vient inaudible? C'est comme un animal qui va être extinct.